de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
L'œuvre de Louis Guillou tient une place particulière dans la littérature du XXe siècle parce qu'il n'a jamais rien répété. Chacun de ses livres est un enjeu à part entière et le met en péril. Ami de Gide, avec lequel il fit le voyage en URSS, Guillou est lié singulièrement à Camus et à Jean Grenier. Si Gide dit qu'on ne fait pas de la littérature avec de bons sentiments, Guillou démontre parfois le contraire dans certains de ses livres. Il écrivit « La maison du peuple » ou encore « Compagnon » en donnant aux pauvres une place romanesque de choix. Socialiste dans l'âme, mais hors de tout courant, de tout parti, anarchisant, Guillou est d'abord et avant tout un homme libre. Il se raconte dans cette émission datant de 1977, puis nous entendrons un large extrait de son roman « Compagnon » paru en 1931.
Louis Guillou, si je dis que vous êtes né le 15 janvier 1899 à Saint-Brieuc, je ne trahis pas un secret, puisque c'est sur la jaquette de tous vos livres.
Hein. Oh bah, c'est pas un secret, c'est un malheur.
Ouais. Alors, est-ce que ça vous paraît très solennel si je vous dis, vous considérez-vous comme un témoin de votre temps?
J'aime pas le mot témoin, parce que ça veut rien dire, témoin devant quel tribunal? Et bon, j'ai vu le siècle, enfin, ce qui s'en est passé. Ça donne une expérience, disons, difficile. Et ça peut torpiller pas mal de petits espoirs ou de grands espoirs qu'on a eus. Mais néanmoins, il reste la nécessité de passer outre et de faire encore quelque chose qui reste à faire pour soi-même, non?
Et sûrement, mais il vous plaît ce temps-là?
Quel temps? Parce que le ça
c'est 60, dix et quelques.
Il me plaît, enfin... La jeunesse, c'est toujours bien, l'enfance aussi, c'est parfait. Mais à partir de 1933, ça change un peu, on devient adulte. Et à partir... enfin, il y a des sections dans le siècle, n'est-ce pas? Moi, je suis du 19e, étant donné que je suis né en 99, mais le 19e finit en 1916 ou 17. Il va jusque-là. Et alors, à ce moment-là, c'est la cassure. Enfin, la cassure, la nouveauté extraordinaire... de la vie contemporaine, avec une espèce d'accélération de l'histoire qui est dangereuse d'une part, difficile à supporter et un peu pessimiste. Rendez-vous compte de ce que la quantité de choses qu'il a fallu voir et assimiler. J'ai vu l'aviation naître, pour ainsi dire l'automobile, les chemins de fer, mon grand-père avait vu naître ça. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre contemporain, il a fallu l'assimiler, le subir et l'intégrer. Et ça n'était pas commode. Au fond, l'enfance d'avant 14 était une enfance radieuse, même dans l'univers prolétarien où je... D'ailleurs, l'enfance, c'est toujours bien. Mais dans l'univers prolétarien où je vivais, c'était pas de soucis, quoi, pas de soucis. Grandiose, comme on a vu depuis. On croyait à une espèce de paix, on croyait à une espèce de relation humaine, enfin, assez sympathique. Et puis, tout d'un coup, ça n'est plus devenu... C'est devenu pas vrai. C'était pas comme ça. Au moins, enfin, c'est toujours agréable de vivre. Enfin, j'aime bien la vie. L'expérience est autre chose.
Je crois que jamais cette série de La vie entre les lignes n'a si bien mérité son titre, puisque votre vie, vous l'avez écrite, tout ce que vous racontez est vrai.
J'ai écrit à partir
un
des
ou
choses
deux
que...
romans de fiction pure.
Oui, il n'y en a pas beaucoup. Finalement, j'ai besoin de la vérité, ou partir de la vérité pour élever les choses à leur valeur de signe, enfin, n'est-ce pas, de communication générale. Mais je n'ai, je crois, rien écrit qui ne fût fondé sur des choses que j'avais connues, à commencer par le premier livre que j'ai publié en 1927, qui est La Maison du Peuple, qui est un récit de vie à l'intérieur d'une famille prolétarienne. Mon père était artisan, cordonnier. Il était socialiste et secrétaire de la section socialiste, et j'ai été élevé là-dedans.
Votre père a été très syndicaliste.
Il était très syndicaliste.
Et comment s'est-il trouvé embarqué dans toute cette...
Parce qu'il pensait droit. Et parce qu'il était sensible aux choses. Et que, au fond, n'est-ce pas, tout ça, c'est une question de génération, en somme, n'est-ce pas. Mon grand-père allait à la messe, mon père, non. Ce qui impliquait une différence et presque une rupture, n'est-ce pas, entre les deux hommes. Oui.
Ils en parlaient entre eux.
Bah oui, ça plaisait pas trop au grand-père, mais à ce moment-là, vous comprenez, la vie artisanale, comme c'était le cas, enfin chez moi, la vie de cordonnier, le grand-père était attaché à toutes sortes de formes de travail qui dataient, enfin, du 19e siècle en plein, n'est-ce pas. C'est-à-dire que son patron, qui était un certain monsieur Denis, qui était d'ailleurs un ami, c'était le bon patron. Et le bon patron emmenait son ouvrier, qui était spécialisé dans les chaussures de femmes. Et alors, une fois par an, on faisait une tournée dans le landau du patron. Il n'y avait pas de voiture autre que les chevaux, les voitures à cheval. Et on faisait la tournée des châteaux. On allait prendre les mesures du pied des dames. Et alors, c'était presque comme un lien avec le travail, n'est-ce pas, qui en même temps était amical, solide, etc. Toute sa vie, il a travaillé pour le même patron.
Et vous dites que quand, dans la Maison du Peuple, donc c'est sûrement la vérité, que quand votre père s'est occupé de syndicats,
ouais,
il a perdu sa clientèle.
Ah, mais oui! Ça a été un moment, n'est-ce pas, assez grave, et même très grave. Tout d'un coup, il est rentré chez lui en disant « j'ai plus de travail ».
Et quelle était la raison profonde? Pourquoi les gens enlevaient-ils le travail?
Parce que la grosse clientèle était plutôt une clientèle bourgeoise. Alors, on ne va pas aller chez cet affreux qui ne va pas à l'église, qui prône des idées révolutionnaires, etc. On ne veut plus le voir. Aujourd'hui, ça, je crois, a disparu, quoique pas tout à fait. Il n'y a pas grand changement, vous savez. Mais en tout cas, ça s'est passé comme ça.
Hein? Mais est-ce que vous avez l'impression que à travail égal,
oui,
votre père, votre grand-père était beaucoup plus pauvre,
oui,
qu'il ne le serait maintenant?
Ils ont toujours été pauvres, jusqu'à la fin. L'un et l'autre. Il n'y avait absolument pas question de faire des économies, d'avoir, comme on dit, de l'argent devant soi. Ce sont des conditions, c'était des conditions, n'est-ce pas, qui ne permettaient pas, en somme, de respirer légèrement. C'était au jour le jour. Rappelez-vous M. de La Fontaine et le personnage de La Fontaine, le financier, interroge le cordonnier et lui demande combien gagne-t-il par an. La réponse c'est, ma foi, je ne sais pas comment c'est, mais il dit, mon habitude de compter de la sorte, chaque jour amène son pain. C'était le cas. S'il n'y avait pas d'avance, il n'y a pas de pain.
Et si on tombait malade?
Ah ben alors là, disons que, n'est-ce pas, il n'y avait pas de sécurité. Si un ouvrier du bâtiment, par exemple, n'est-ce pas, ne travaillait pas pendant 3 ou 4 jours parce qu'il pleuvait, on ne construit pas quand il pleut. Le ciment ne prend pas, on ne peut pas travailler. Alors, c'était ce qu'on appelait des jours en bas, c'est-à-dire pas payés, c'était pour lui. Le patron, lui, s'en foutait. qu'il pleut.
Les intempéries à la charge de l'ouvrier.
Ah, bien sûr. Les heures de travail du matin au soir, quoi. Oui, d'un soleil à l'autre. La sécurité, enfin, les médecins, les remèdes, tout ça, c'était pour le malheureux. Ça n'a changé qu'avec le Front populaire. Jusque-là, aucun de ces avantages n'existait, n'est-ce pas ? Absolument pas. Le Front populaire a opéré une transformation, alors vraiment complète, dans la vie des ouvriers.
Jean Carvenel était un homme de 50 ans, grand, bien bâti, mais malade du cœur. Depuis longtemps, ses camarades observaient avec inquiétude son teint plombé, ses lèvres bleues comme de l'encre, et sur son visage, cet air de gravité des hommes qui se savent frappés à mort. Dans son regard, on lisait clairement qu'il pensait, peut-être dans un mois, peut-être dans deux, sûrement bientôt. Vieux garçon, il habitait à l'entrée de la ville une chambre qu'il avait meublée avec ce qui lui restait de l'héritage de ses parents. Auprès de Jean Carvenel, fortuné, le Brice paraissait petit. Carvenel le dépassait de la tête, ce qui n'empêchait pas le Brice d'être un homme vigoureux, bien campé sur ses jambes et qui n'avait jamais connu la maladie. Ils étaient tous deux du même âge, et depuis l'école, ils ne s'étaient guère quittés. Après la guerre, faite ensemble, ils avaient fondé, avec un jeune compagnon nouveau marié, Dagorne, une petite entreprise de plâtrerie, chaux et ciment. Bons ouvriers, tous les trois, ils s'étaient vite fait une réputation, ils gagnaient largement leur vie. On leur offrit de se charger des travaux d'une petite maison qu'on bâtissait à 5 kilomètres de la ville. Le chantier était bon, la route pour s'y rendre commode, le travail avançait. Un samedi soir, la journée finie, le Brice était remonté sur les échafaudages, comme d'habitude, avant de partir, pour voir si l'on n'avait rien laissé à la traîne. Carvenel se changeait en bas. Dagorne, lui, était déjà en route. Il habitait hors de la ville, et le samedi, il partait une heure plus tôt. Son tour fait, le Brice redescendit dans la cour. Comme il tournait à l'un des coins de la maison, il s'arrêta net de fredonner. Au fond de la cour, Jean Carvenel était assis, la tête dans les mains. Il regardait par terre, entre ses jambes, sans bouger.
Hé, Jean, tu m'entends? Mais ça va pas, bonhomme. Dis, ça va pas?
Pas guère, fortuné.
Oh, t'as mal?
J'ai pas mal. Mais c'est la faiblesse. Mes jambes me quittent.
Bon, faut t'allonger, ça va passer, je vais t'aider.
Non.
Tu veux un petit coup de rhum? J'en ai.
Tu crois que...
Ça va pas te faire de mal. Allez, ouvre la bouche, mets la tête en arrière pour que ça ne coule pas. Ça te fait du bien?
Oui. Oh, mais ça va passer.
Oh, bien sûr que ça va passer. Tu vas rester là, bien tranquille, sans bouger, et d'un coup de vélo, je vais chercher une voiture pour te ramener.
Non. Non, arrête, Fortuné, non. T'en vas pas.
Mais j'en ai pour 10 minutes, pas plus.
Non. Ça va, je te dis.
Et donne au moins que je te desserre ta cravate. Là. Ah, sacré bon Dieu.
Mais t'en fais pas, Fortuné, t'en fais pas, puisque je te dis que ça va aller, alors. Allez, aide-moi donc à me lever.
Attends un peu.
Non, vaut mieux que je rentre chez moi. Je dormirai et puis, il paraîtra plus.
Et comment tu veux rentrer?
Ben, sur mon vélo, tiens.
Sur ton vélo?
Ben alors?
Je t'en aurai jamais la force.
Ouais, faudra bien.
Ce que tu veux faire là, Jean, c'est de la folie. Puisque je te dis que je vais aller chercher une voiture.
Ben, je te le défends, moi. Je m'en vais rentrer sur mon vélo.
Bon, comme tu voudras. Attends, on n'a jamais fait qu'à ta tête. Roule à côté de moi, au moins.
Par bonheur, il n'y avait guère qu'à se laisser porter jusqu'en ville. La route était douce, et comme il était 7h30 bien passé, les voitures étaient rares. Cavenel avait pris la bande. Bossant du dos, il avançait sans un mot. Le brice l'entendait souffler. Ce n'était pas la première fois que Cavenel donnait ainsi à le brice une preuve de courage. Il en avait montré toute sa vie. Au front, il avait été un homme calme. Mais au front, ce n'était pas la même chose. Il n'y avait qu'à attendre. On ne pouvait faire autrement. Tandis que s'il avait voulu, il aurait pu avoir une voiture. C'est un sacré bonhomme, pensait le brice. Un détour de la route, la ville apparut dans la plaine avec ses feux. Il était temps d'arriver. Quand il descendit de machine devant sa porte, Cavenel serait tombé sur le trottoir si le brice ne l'avait soutenu. La maison était ancienne, avec de longues fenêtres aux petites vitres carrées. La porte ouvrait sur un escalier de pierre. En guise de rampe pendait une grosse corde, presque un câble, noire et luisante, qui se terminait par un nœud.
Hey, tiens-toi fort, mon Jean, et appuie-toi sur moi. C'est une vraie chance, dis-moi que ta chambre soit au premier étage. Il aurait fallu que je te monte sur mon dos. Et costaud comme tu es, tu m'aurais bien écrabouillé. Mon Jean. Ça va?
Oui, oui.
Va falloir te coucher tout de suite.
Oh, bien sûr, ça c'est... C'est sûr que c'est mon lit qu'il faut.
Là, on y est. À la clé. Laisse, je vais la prendre. Allez, viens. Allez, assieds-toi. Vous allumez la lampe.
Ah, mon pauvre fortuné. Me voilà quand même chez moi. Ben, tu sais, j'ai bien cru que j'y arriverais jamais.
Pense à rien, bonhomme, et couche-toi vite.
Voilà, laisse-moi. Laisse-moi souffler d'abord 2 minutes.
Allez, souffle, mon Jean. Souffle. Ah ben dis donc. Il y a longtemps que je suis pas venu chez toi. C'est bien mon ombre. C'est ta mère, la photo, là?
Oui. Et ça, c'est mon père. Mon frère pendant la guerre. Et puis à côté, là, c'est ma petite sœur, le jour de ses 20 ans.
T'as une belle armoire?
Oui, c'est celle de mes parents, ça. Oh, j'ai tout gardé, là.
Oh. Qu'est-ce qu'il y a?
Je veux enlever mes chaussures. Et je peux pas me baisser.
Ah, tu vois bien. Hey, faut pas te forcer. Bouge pas. Laisse-moi faire. Hey. Penche-toi un peu.
Attends.
Allez, j'ai enlevé ta veste maintenant. Ça va?
Oui. Mais je... Je crois que je vais me coucher maintenant.
Hey,
si tu veux.
Vas-y!
Je vais m'appuyer sur toi.
Oh. Je tiens bon. Hey, viens doucement. Doucement. On a le temps.
Ouais, ça va mieux, tu sais. Seulement, si tu peux ouvrir le lit.
Bien sûr. Allez, étends-toi. Ouais, comme ça. Ce sera bien. Allez. Eh ben voilà. Mets ta tête sur l'oreiller.
Eh ben quoi? Mais qu'est-ce qui te prend, mon Jean?
Allez, va pas te faire de mauvais sang. Pense à rien. Hey, dors. Je viendrai te voir demain matin. T'as besoin de rien?
De rien, fortuné.
Bon. Je vais te chercher de quoi manger un morceau.
Non, je veux rien prendre. Je vais dormir, tiens. Si je peux, au moins. Il faudrait que tu... que tu penses à monter chez toi, Fortuné. Ouais. Parce que ta femme va se demander où tu es passé.
Oh, elle a l'habitude.
Ouais. Tu peux aller, va vite. Je vais dormir maintenant.
Bon, allez. Alors, à demain.
À demain.
T'en fais pas. Allez, t'en fais pas, bonhomme, tout ira bien.
Ah, mais te v'là. Où que t'étais encore? Je me minais les sangs à t'attendre. Hein? Où que t'étais?
Tais-toi, Marie, apporte-moi ma soupe. Tu feras mieux.
Qu'est-ce qu'il y a donc?
Il y a Marie que Jean Kervenel est foutu. T'as compris? Pourquoi tu me regardes comme ça?
Qu'est-ce que tu me racontes, là? Jean Kervenel.
Puisque je te le dis. On était au chantier, tout d'un coup, je l'ai retrouvé assis par terre, tout gris. J'ai cru qu'il allait passer. C'est un sacré bonhomme, le Jean. Il a tout de même voulu rentrer sur son vélo. Il a fallu que je le couche.
C'est pas Dieu possible.
Et tout ça un samedi soir. Et Dagorn qui est pas là, sacré mille bon Dieu.
Et alors, et l'entreprise?
L'entreprise? Il n'y a pas question d'entreprise pour le moment, Marie.
Le lendemain, c'était un dimanche. Mais le Brice se levait tôt, descendit bon train jusqu'au lavoir, un lavoir couvert construit en bordure d'une route à la fin de la ville, nourri par une fontaine, où l'eau était toujours pure. Le dimanche matin, comme beaucoup de camarades du quartier, le Brice venait y faire sa toilette. Au lavoir, il ôta sa chemise, nu jusqu'à la ceinture, il frissonna. Agenouillé sur la margelle, d'un coup, il plongea la tête dans l'eau. Rien de tel pour réveiller un homme, c'est bien connu. Ce n'était que le dimanche matin qu'il pouvait entreprendre ce qu'il appelait une grande eau. Les autres jours, poussé par l'heure, il n'avait que le temps de se passer le coin d'un torchon mouillé sur les yeux. Puis il rentra. Un vent soufflait à ras de terre, le sol était humide. Au bout d'une vallée, il s'arrêta un instant, l'endroit lui plaisait. De là, on dominait toute une longueur du pays, d'où sortaient les clochers de deux villages. Et plus loin, la ligne grise de la côte et la mer. Il avait faim. Marie l'attendait vêtue d'un caraco et d'un cotillon de grosse laine blanche à raies rouges. La soupe était prête.
Tiens, ça te fera du bien si t'as fait ton tour.
Oui, je vais faire un petit tour. J'ai bien peur si le temps ne se lève pas et qu'il tombe de la pluie tantôt. Faudrait pourtant que j'aille chez Dagorn dans la soirée.
Oh, par Dieu, oui. Allez, bois ta soupe. Je vais donner à manger au lapin.
Tout à l'heure. J'irai chez Jean.
Ben, t'en vas pas les mains vides. J'ai mis dans le pot un peu de bouillon pour lui, tu lui feras réchauffer. Et dis-lui que je suis en train d'en faire du frais et qu'il en aura demain.
Bon.
Et achète-lui quelque chose en route, des oranges, si tu
ouais.
veux. Et dis-lui bonjour.
Oui, Marie, je lui dirai. Comment je vais le trouver, pauvre bonhomme, à 50 ans.
Ah, Fortuné. Ben, toi, je t'attendais. Je savais bien que tu serais venu de bonne heure.
Ah, pardon. As-tu dormi?
Bon, pas tellement. Je me suis réveillé sur le coup de minuit. J'avais une douleur là, dans le côté.
Ben, faudrait faire venir le médecin.
Ah, non.
Pourquoi?
Bon, pourquoi? Pas besoin de gâcher des sous pour rien. Qu'est-ce que tu as dans ton pot, là?
C'est du bouillon que Marie t'envoie. On aura du frais au matin. Elle est en train d'en faire. Où est ton réchaud?
Quoi, mon petit réchaud? Ben, ouvre l'armoire, il est devant toi. Mais tu sais, j'ai pas faim.
Faut te forcer.
J'ai serré.
Écoute, mon Jean, pour le médecin...
Ah non, 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 je te dis, non.
Mais écoute un peu. C'est pas que je te vois plus malade, au contraire. Ta meilleure apparence qu'hier au soir. Mais par acquis de conscience. Penses-tu pas qu'il vaudrait mieux qu'il vienne? Le père Oudan meurt là tout près, tu sais bien. C'est un bon bonhomme. Qu'est-ce que t'en dis?
Que ça serait du temps perdu, fortuné.
Bah, il te rassurerait.
Oh. J'en ai point d'affaires, hein. Je sais bien ce que j'ai.
Sacré Jean. Ah, t'es bien têtu.
C'est pas la question, mais le père Oudan, il fera rien.
Où t'as mal?
Nulle part.
Ah. Hé, hey, bon, c'est chaud. Hey. Tiens. Reste-toi un peu.
Oh,
ah. Tu veux que je te tienne le bol?
Non, non, ça va, ça va.
Et tu vas jusqu'au fond. C'est là qui est le meilleur.
Goustade, goustade. Tout petit, tout petit. Doucement.
Oui, on a tout le temps. Dis. Mm-hmm. Dis-moi, Jean. T'as une douleur au côté?
Non, non, c'est passé, ça. Mais bah, je me sens faible, quoi, c'est tout. Faudra pas compter beaucoup sur moi, hein, demain au chantier.
Je t'ai apporté des oranges. Des fois que tu te réveillerais la nuit et que t'aurais soif.
Des oranges, tu m'as apporté?
Ouais.
Mon père aussi, quand il était à l'hôpital, c'est des oranges que je lui ai apportées. Merci, fortuné. Tu as bon cœur.
Mais qu'est-ce que t'as? Oh, va pas te laisser tomber, Jean. Va pas mollir, sacré bon Dieu. À quoi ça sert de prendre un fond de chagrin? Ah, oh, si c'est pas contrariant, un homme comme toi.
Apporte-moi mes comptes, tiens. Ils sont dans la commode. Là, le tiroir du bas, tu vois? Deux petits carnets de toile.
Ça, là?
Oui. Tiens, tu vas les emporter. Tu les donneras à Dagorn et tu lui diras qu'il vient de me voir, que j'ai des affaires à lui expliquer. Sans faute, hein?
Tu peux compter, Jean. J'irai voir Dagorn ce soir.
Tu es gentil, fortuné. Bon, ben, à présent, laisse-moi tranquille. Je crois que je vais reposer un peu.
Oui, Jean.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 6 juin 1977. Vous pouvez la réécouter pendant 1000 jours et la télécharger pendant un an sur le site franceculture.fr. Thank you.